Bonne fête, papa José.
Oui, merci beaucoup, maman. Nous pouvons démarrer. Bonjour, et bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur. Encore une fois, nous sommes devant notre Seigneur pour méditer sa parole, mais avant tout, nous pouvons lui demander la grâce de nous accompagner comme nous sommes là. Si nous pouvons demander à notre sœur, Maman Claudine, de prier le Seigneur pour nous.
Merci, papa. Prions notre Dieu. Père céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de toute bonté, vers toi nous levons encore la voix pour te bénir, te remercier pour la journée que tu nous as donnée, Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, dans les assemblées, Seigneur, respectives pour célébrer encore la résurrection de Jésus-Christ. Et voilà que tu nous as nourris, Seigneur éternel, tu nous as assistés en toutes choses. Maintenant encore, nous sommes là pour toi, Père. C'est pourquoi nous voulons que ton Esprit Saint nous assiste en toutes choses, qu'il soit le maître de cette cérémonie, ô éternel, afin de nous ouvrir l'intelligence pour que nous comprenions, Seigneur Dieu, ta parole et enfin de la mettre en pratique. N'est-ce pas qu'il est écrit, ô Père, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'éternel? Seigneur, nous savons que cette Bible que nous tenons en main, c'est ta bouche, ô Éternel. Parle-nous, nous voulons t'écouter, Yahweh. Nous te confions, Seigneur, nos bien-aimés qui sont déjà là. Nous voulons vraiment que par ton Esprit Saint, nous soyons unis les uns aux autres et nous soyons connectés à toi. Mais aussi, nous te prions pour nos bien-aimés qui viendront après nous, Seigneur, afin que nous puissions avoir un même esprit animé de même sens, de même pensée, de même sentiment. Bénis ces moments, Seigneur, que tu utilises puissamment ton serviteur que tu as choisi pour nous conduire dans la puissance de ton Esprit Saint et que toute la gloire te revienne. Nous te confions la technologie, ô grand roi, en sorte que, papa, cette technologie soit soumise à toi et soumise à nous. Et cela pour toi et pour toi seul. Merci, Seigneur, de nous conduire, de nous assister. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Oui, merci beaucoup, notre sœur, pour la prière. Nous prenons maintenant nos Bibles et nous l'ouvrons dans l'Évangile selon Marc.
Alors, je ne sais pas regarder ça après, s'il te plaît. Viens de méditer avec moi.
L'Évangile selon Marc au chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 30 jusqu'au verset 41. Marc, chapitre 9, verset 30 à 41. Nous demandons à notre sœur, maman Petronelle, de nous faire la lecture de ce passage.
Merci, papa, pour la gloire de notre Dieu. Nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 9, à partir du 30 jusqu'au 41e verset. Jésus annonce de nouveau sa mort et sa résurrection. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on sache où il était, car il enseignait ses disciples. Il leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes qui le mettront à mort, et 3 jours après sa mort, il reviendra à la vie. » Mais les disciples ne comprenaient pas la signification de cette parole. Et ils avaient peur de lui poser des questions. Qui est le plus grand? Ils arrivèrent à Capernaum. Quand il fut dans la maison, Jésus demanda à ses disciples, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Alors Jésus s'assit, il appela les 12 disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis il prit un petit enfant et le plaça devant eux. Il le serra dans ses bras et leur dit, « Celui qui reçoit un de ses enfants à cause de moi, me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, ne reçoit pas seulement moi-même, mais aussi celui qui m'a envoyé. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chassait les esprits mauvais en ton nom. Et nous avons voulu l'en empêcher, parce qu'il n'appartient pas à notre groupe. » Mais Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car personne ne peut accomplir un miracle à mon nom et tout de suite après dire du mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, je vous le déclare, c'est la vérité. Il recevra sa récompense. » Parole du Seigneur.
Nous rendons gloire à Dieu. Merci beaucoup, Maman Paternel, pour la lecture. Hier et avant-hier, il était question de la transfiguration du Seigneur. Et lorsque ils sont descendus, notre Seigneur et ses trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, ils ont trouvé d'autres disciples ainsi que la foule, puisque il y avait là un homme qui avait son enfant qui était possédé. Et le Seigneur l'a délivré. Aujourd'hui, à partir du verset 30, ils partirent de là où ils ont trouvé les disciples, et ils ont traversé la Galilée. Comme nous savons, il avait dit déjà à ses disciples de ne pas raconter ce qu'ils ont vu. Et ici aussi, au verset 30, Jésus ne voulait pas qu'on sache où il était. Alors, après, il revient sur la question de sa vie. On va m'arrêter, je vais souffrir, je vais mourir, mais 3 jours après, je vais ressusciter. Après, il continue, il pose la question à ses disciples. Parce que ses disciples, quand ils étaient seuls, ils discutaient entre eux. Ils n'ont pas voulu poser la question au Seigneur, ils n'ont pas voulu dire, mais le Seigneur savait. Il passe, quelque part, c'est Jean qui demande au Seigneur, qui dit au Seigneur que nous avons vu quelqu'un, ne faisons pas une partie de notre groupe guérir chassé les démons en ton nom et nous l'avons empêché. Le Seigneur a dit aussi quelque chose là-bas qui peut aussi nous intéresser. Voilà, c'est en gros que nous avons lu, mais nous allons entrer dans les détails, verset par verset. Commençons à partir du verset 30, nous allons jusqu'au verset 41. Nous avons, lors de notre partage, pensé à ces deux questions, la question numéro 3 et la question numéro 6. La question numéro 3 sur les exemples à suivre ou à ne pas suivre, et la question numéro 7 sur la vérité que Dieu nous révèle dans le passage. Voilà, nous ne sommes pas très nombreux, mais quand même, il y a un frère qui s'est ajouté, c'est papa Samuel. Oui, bonjour et bonsoir.
Bonjour mon frère.
Oui, merci beaucoup. Voilà, bien-aimés, nous pouvons commencer le partage, disons peu, pas beaucoup, mais on aura l'occasion de revenir sur d'autres versets. On aura l'occasion. Vous avez la parole, bien-aimés. J'introduis en prenant le verset 30. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on sache où il était. Oui, nous avons déjà parlé du silence de le Seigneur, du Seigneur sur certains points et surtout quand il fait un miracle. Ici, ils étaient sur la montagne, il a été transfiguré, les trois disciples ont vu vraiment des merveilles. Et il ne veut pas qu'on raconte tout ça. Donc, il garde le silence. Il sait pourquoi il le fait. C'est un homme qui suivait un plan, un calendrier. Et il voulait que chaque chose se fasse selon le plan qu'il suivait. Et lorsque le moment viendra, il ne va pas cacher. Il dira, je vous dis ouvertement, voilà, je vous dis ouvertement, parce que le moment est venu où la vérité peut être annoncée partout. Voilà, bien-aimés, notre Seigneur n'était pas comme nous sur la terre, il marchait en suivant un programme bien donné, bien suivi, et ce qui arrive, c'est toujours sur le plan, sur le programme. Alors que nous n'avons pas de programme comme lui. Comme lui. Il avait un programme. Si on l'a arrêté, ce n'est pas le fait du hasard. Le programme était déjà arrivé au terme et on l'arrête. On le tue, ce n'est pas le fait du hasard. Parce qu'il était venu pour mourir. Voilà, notre Seigneur a un programme, avait un programme pour notre salut. Merci. Papa, pasteur.
Mm-hmm. Ok, ouais. Moi je voulais prendre, merci mon frère, je voulais prendre le verset 31.
Oh.
Dans le verset 31, on voit que, comme vous venez de dire tout à l'heure, que notre Seigneur avait un plan. Mmh. On voit que dans le verset 31, il révèle ce plan.
Amen.
Il dit que le Fils de l'homme va être livré aux mêmes hommes. Ils vont le faire mourir. Et trois jours après, il se relèvera de la mort, ou bien il le ressuscitera d'entre les morts. Donc, on voit ici que Jésus connaissait pourquoi il était venu, comme vous l'avez déjà dit.
Mmh.
Et dans ce plan, il dit d'avance aux disciples qu'il va mourir. Mais l'amour n'est pas une fin en soi pour lui. Il dit, après 3 jours, il ressuscitera d'entre les morts. On voit bien que la mort de Jésus n'est pas une mort accidentelle.
Mmh.
Ce n'est pas par hasard qu'il est parvenu à mourir ou bien ce n'était pas prévu. Non, c'est une mort programmée et une mort annoncée d'avance et le salut de plusieurs. Donc, il y a de. Aujourd'hui, il y a parfois des sectes, comme la secte de Moon, qui pense que la mort, qui enseigne que la mort de Jésus est un accident. Non, ce n'est pas un accident. On voit bien que lui-même, avant qu'il ne meure, il annonce.
Mmh.
Et au travers de ça, on peut voir aussi que sa divinité, parce qu'il annonce ce qu'il va venir.
Mmh.
Et il dit même que c'est après 3 jours. Il va ressusciter d'entre les morts, avant qu'il ne soit ressuscité d'entre les morts. Donc, ce n'est pas une surprise pour lui, mais aussi, il ne voulait pas que ce soit une surprise pour les disciples. Donc, il les a préparés d'avance. Merci beaucoup. Donc, pour nous aujourd'hui, donc, la mort de Jésus, c'est la base aussi de notre prédication. Merci beaucoup.
Oui, notre Seigneur n'est pas mort au hasard, il avait quitté le ciel pour mourir.
Amen.
Et il savait toutes les étapes. Ceux qui racontent des mensonges aujourd'hui, soi disant que surtout la secte dont le frère a cité tout à l'heure, le responsable qui ne vit plus, avait dit que le Seigneur devait se marier et avoir des enfants. Alors, comme il a refusé le mariage, on l'a tué, il est mort. Et lui autorise le mariage et il marie, ainsi de suite. Mais malheureusement, il n'est plus. Voilà. Donc, on peut raconter, mais pour nous, nous suivons ce que la parole dit. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Je donne la parole à maman Christine, suivie de notre sœur maman Claude. Voilà. Donc, les deux là, ils vont parler pour le moment.
Oui, merci papa pour la parole. Je fais le lien entre 31 et 32 parce que je vois ça faire. Et ce que j'avais souligné ici avant que papa Samuel ne parle, c'était le verbe enseigner. Enseigner qui veut dire transmettre les connaissances à quelqu'un. Et nous savons que, comme vous l'avez dit papa, le Seigneur était venu avec un calendrier. Il avait un plan bien établi des choses. Il savait par où commencer, par où terminer, et il continue à enseigner. Parmi ses enseignements, papa Samuel a bien souligné, disant que c'est la base de notre prédication, de notre enseignement. Et ici, il est en train de leur parler de sa mort, de sa résurrection. Bien-aimé, je me mets dans la peau de ces gens qui n'avaient jamais entendu des choses pareilles. Comment ils pouvaient comprendre cela? Eux qui étaient contents de voir que le Fils de Dieu était venu pour les libérer, ils comprenaient bien sûr cette libération était physique, alors que le Seigneur parlait des choses spirituelles. Jusque-là, ils ne comprenaient pas très bien, mais ils étaient quand même dans la joie de faire partie de son groupe, d'écouter, parce que de temps en temps, ils lui posaient des questions, le Seigneur répondait, ça faisait leur joie. Et quand il faisait des miracles, tout ça, vraiment, ils étaient dans la joie de voir ça. Et au point qu'ils ne voulaient pas que ça termine, parce qu'avec sa mort, il n'y aurait plus de miracles, il n'y aurait plus de groupe qui allait suivre, il n'y aurait plus toutes ces choses merveilleuses qu'ils étaient en train d'expérimenter, telles que la transfiguration. Alors, c'est tout à fait normal que ses frères ne comprenant pas, et ils n'arrivaient même pas à poser la question. Mais les choses qu'ils disent, ça nous dépasse. Ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient sortir de sa bouche, c'était un peu difficile à comparer. C'est pourquoi le 32 nous dit qu'ils ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de lui poser aussi des questions, de l'interroger. Ça peut nous arriver aussi bien, nous, aujourd'hui, quand vous voyez un frère, un serviteur de Dieu qui prêche bien la parole, vous l'écoutez vraiment, il y a des signes et des prodiges qui se produisent. Et après, le frère qui vous dit que non, je vais mourir, et ainsi de suite, mais ça va quand même vous décourager. Vous allez vous poser, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Donc, c'est tout à fait normal ce qui est arrivé à ce frère. Ça peut nous arriver aussi aujourd'hui, bien aimé. Voilà un peu ce que je voulais partager. Merci.
Ce qui est arrivé à ces frères-là peut aussi nous arriver. Et cette question-là de la mort du Seigneur vraiment les dépassait. Et surtout, la résurrection, comme nous avons vu la fois passée, ils ont eu le courage de demander, mais c'est quoi?
C'est
quoi? Donc, oui, il y avait des choses qui les dépassaient. Nous comprenons bien parce que ce sont les hommes et ce sont des vérités spirituelles très profondes, jamais entendues avant, parce que la notion du Messie qu'ils avaient, c'est tout à fait contraire à celle que le Seigneur était en train de raconter. Pour eux, le Messie ne doit pas mourir. Non. Oui. OK. Merci beaucoup, ma sœur. Nous donnons à Maman Claudine la parole.
Oui, papa, je le donne à mon fils Joël.
Oui.
Je dis quoi, allô? Je voudrais bien discuter à partir du verset 33, partager.
Mm.
À partir du verset 33 jusqu'à 35. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand.
Mm.
Alors ici, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Moi, ce qui m'a plus interpellé là, c'est que Jésus pose une question à ses disciples alors qu'il sait la réponse, il sait de quoi il parlait.
Mmh.
Et cela, dans ce verset-là, je tire plutôt comme leçon, c'est que Jésus sait de quoi nous marmonnions.
Mmh.
Jésus est au courant de ce qui nous tracasse. Il sait de quoi nous avons besoin. Et il veut que la requête sorte de notre bouche. Il veut que nous lui disions de quoi nous avons besoin. Et en parlant du verset 35, lorsqu'il assit les disciples et leur dit, celui qui veut être le premier doit être le dernier. Jésus nous demande l'humilité et être au service des autres. Et c'est ce que moi j'ai plutôt retenu aux trois versets suivants.
Mmh. Coucou notre fils Joël, c'est exactement ce que tu as dit. Il y a deux points que tu as développés. Le premier point c'est sur le silence des apôtres. Ils n'ont pas demandé au Seigneur et le Seigneur a demandé aux disciples, de quoi discutiez-vous? Il savait, comme le fils a dit, il savait, mais il voulait qu'ils disent ça de leur propre bouche. C'est la même chose souvent quand on amène un malade, ou bien malade vient, et il demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il sait, il est venu pour chercher la guérison, mais il demande quand même. Il veut que nous prononcions, que nous disions, est en nous. Même chose, quand nous prions, Dieu connaît ce que nous avons dans notre cœur. Mais il veut que nous parlions. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et le deuxième point, c'est l'humilité. Le Seigneur enseigne l'humilité là-bas. Et ça, c'est une grande leçon pour nous tous. Merci beaucoup, Joël. Ah. OK. Papa, pasteur Samuel.
Oui.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Mais comme le fils vient de me dire au verset qu'il a lu, Mais je vois ici que ce qui retenait aussi les disciples, c'était la peur. Ils ont peur de lui poser des questions. Et puis au verset 34, « Mais les disciples se taisent alors que ils ont des préoccupations, mais ils se taisent quand même.
»
Mais dans toutes ces choses, comme Joël, je crois qu'il a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? On voit que les disciples, Jésus, ici, ne les répond pas. Il enseigne seulement. C'est quand même étonnant. Il leur a pas dit pourquoi vous avez peur, comme il l'a dit, ou il disait ailleurs, ou bien pourquoi vous vous taisez. Mais il leur montre qu'il est le Seigneur, qu'il connaît, et il sait tout de nous. Comme tout à l'heure, j'utilise aussi comme enseignement, Jésus connaît tout, il sait tout. Même si nous nous taisons, il connaît. Mais il a besoin que nous parlions aussi. Il nous montre, il nous met dans des situations telles que nous devons parler. Donc, ne limitons pas les disciples ici pour nous taire. Et si nous avons des questions, nous pouvons aussi les poser. Et je vois ça dans certains psaumes hein, où David vraiment prie et puis pose même des questions au Seigneur. Mais c'est pour dire que nous devons parler avec lui. Il est capable de nous répondre, même au-delà de ce que nous n'avons pas dit, il peut le faire. Merci.
C'est ça. Nous devons parler avec lui. Et même si ce que nous pensons n'est pas correct, disons quand même, il est père, il nous corrige sans nous punir. Il nous corrige sans nous punir, mais disons lui quand même ce que nous avons dans notre cœur. Si c'est mauvais, il dira ça, que c'est mauvais. Que de garder le problème parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur, ça ce n'est pas bien. La peur n'aide pas, la peur bloque. La peur bloque. Mais avec le Seigneur, disons-lui ce que nous avons. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Merci beaucoup, Papa Pasteur.
Oui, papa, moi j'ai une question, s'il vous plaît, sur le verset 36.
36, oui.
Ouais, je vois là, on a même donné la note, Marc 10, 16. Ça dit presque la même chose parce qu'il s'agit du Seigneur qui reçoit les petits-enfants, qui les prend même dans ses bras. Et souvent, je vois les bien-aimés qui baptisent les petits-enfants, les bébés, ils avancent comme raison, ils se basent sur ces deux écritures. Donc, Marc 9, 36 ici, et puis Marc 10, 16. Disant qu'on avait amené les enfants au Seigneur, il les avait bénis et il se base sur cela pour dire qu'on peut baptiser les tout-petits. Alors, ma question, c'est celle-ci. Qu'en est-il ici? Parce que ma version, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le Seigneur a pris cet enfant et pourquoi il leur a montré, disant que celui qui reçoit en mon nom un de ses petits. Est-ce que si on reçoit des petits-enfants chez soi, on leur donne des bonbons, cela veut dire qu'on a reçu le Seigneur bien comment? Si vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît.
J'aimerais commencer par la première partie pour montrer que les uns baptisent les enfants en se basant sur ce texte ou les autres textes. Oui. Nous disons que pour nous qui lisons la parole, il y a vraiment une différence entre prendre les enfants, bénir les enfants et baptiser les enfants. Lorsque le Seigneur a parlé du baptême, il a dit « Vous allez vous enseigner. » t'enseigner, et si ils y croient, vous les baptisez, ainsi de suite. L'enfant ne croit pas, il est enfant. Le Seigneur recevait les enfants et les bénissait, mais il ne s'agit pas de baptême. Et si nous baptisons en nous basant sur, si nous baptisons les enfants en nous basant sur, sur ce passage, nous tapons à côté. Nous tapons à côté parce que enseigner, celui qui croit sera baptisé. Et l'enfant ne croit pas. Mais le Seigneur le reçoit et le bénit. Et c'est ce que nous pouvons faire dans nos églises, recevoir les enfants, ce que nous appelons dédicace des enfants et la bénédiction. On reçoit les petits-enfants, on les bénit. Mais il ne s'agit pas de baptême. L'enfant, lorsqu'il sera grand, il sera baptisé. Voilà, c'est ça. Bon. Pour ce qui est de ta question, recevoir les enfants, oui, c'est-à-dire que ce passage a été pris suite à la question des disciples sur qui est le plus grand. Oui, qui est le plus grand? Et lui de dire, lui de prendre donc un petit enfant, il le met là, il dit, celui qui reçoit, excusez-moi, celui qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi me reçoit moi-même. C'est-à-dire, et celui qui me reçoit et il continue. Donc, nous pouvons manifester notre amour envers notre Seigneur en nous occupant des enfants. Il n'y a pas de problème. Parce que l'enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas de force. C'est quelqu'un qui ne peut pas se défendre. C'est quelqu'un qui ne fait que regarder et chercher le soutien des autres. Alors, si par pitié, si par amour pour le Seigneur, vous vous occupez de ses enfants, vous les recevez, c'est comme vous recevez le Seigneur, et celui qui reçoit le Seigneur, il reçoit Papa, Papa Dieu, Dieu le Père. Oui, donc cette partie, le verset 36, suit ce qui précède sur qui veut être le plus grand. Alors, celui qui veut être le plus grand, il doit alors servir. Il ne doit pas chercher la première place. Voilà. Il doit servir les autres, être au service d'eux. Voilà, c'est à peu près ça. Et s'il y a un frère ou une sœur qui veut ajouter quelque chose, il peut le faire. Donc, nous avons maintenant ce verset qui va jusqu'au verset 37. Le 36 et 37 vont donner les explications. Mais un autre frère peut dire aussi quelque chose. Pasteur, papa pasteur.
Mais papa pasteur, vous avez tout dit, hein, ce qu'il fallait. Donc, on voit que comme ça a parlé du verset 35, il parlait de l'humilité, n'est-ce pas? On voit que c'est dans ce cadre-là que Jésus continue pour insister. Et dans le verset ici, il n'y a même pas raison qu'on parle du baptême, comme vous avez dit, parce qu'il dit il le met au milieu du groupe. L'embrasse et dit aux disciples, si quelqu'un reçoit un de ses enfants à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Et cette personne qui me reçoit, ce n'est pas moi qui les reçois. Elle les reçoit celui qui m'a envoyé. Donc le Père. On voit que Jésus se sert de cet exemple pour montrer que quand nous recevons quelqu'un à cause de son nom, c'est lui Jésus que nous recevons. Mais aussi dans ce texte, je crois qu'il y a un avertissement pour nous, pour que nous ne puissions pas nous prendre, je ne sais pas de quelle façon, mais considérer que nous devons considérer les autres comme étant des personnes, comme étant Jésus lui-même que nous recevons. Et puis surtout, que nous ne puissions pas tomber dans l'orgueil de penser que nous sommes quelque chose alors que les autres ne le sont pas, mais que nous devons continuer, persévérer dans les enseignements pour que nous ne soyons pas les derniers, mais que nous gardions quand même une place dans le royaume.
Oui, papa, je peux ajouter quelque chose?
Oui, maman.
Oui, je prends toujours le verset 34, parce que c'est là où nous sommes, 37 plutôt. Nous voyons ici que de 36 à 37, Jésus qui prend un enfant qui le met au milieu. Et il n'est plus dans ses bras. Pour moi, je trouve que cet enfant, c'est comme un matériel didactique. Parce qu'ici, Jésus-Christ était en train d'enseigner ses disciples. Alors, il le présente un enfant qui est sans défense. Un enfant, c'est quelqu'un qui croit tout à ce qu'on lui dit. Un enfant, c'est quelqu'un qui est au service de tous, parce que quand on a besoin, on envoie tout le temps les petits-enfants, et ils y vont avec joie, ils reviennent, ils te donnent avec sincérité, avec dans toute l'innocence. Donc, Jésus, c'est une attitude qu'il veut faire comprendre à ses disciples, s'il veut être grand, qu'il soit comme le dit dans une autre version, qu'il soit comme un petit enfant. Donc un enfant, c'est celui qui est, donc c'est l'innocence, c'est l'humilité, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Donc avec ça, il dit, alors quiconque reçoit un enfant, un de ses petits enfants en mon nom. Donc ici, nous voyons qu'il est en train d'enseigner pour que les disciples puissent vraiment faire comme les petits-enfants font. Donc, ils ne cherchent pas à avoir la première place, parce qu'ici, ils discutaient sur qui étaient les plus grands. Là, les autres, ils venaient de descendre de la montagne de transfiguration. Alors, quelque part, ils pouvaient être lésés pour dire que ceux-là qui étaient partis avec les seigneurs, ce sont eux qui sont les plus grands. Mais en soi, dans l'œuvre du Seigneur, dans parmi nous les enfants de Dieu, il n'y a pas de plus grand et de plus petit, parce que tous nous avons la même valeur aux yeux de notre Seigneur. Nous sommes égaux dans la considération de notre Seigneur. Et voilà, quiconque reçoit un enfant comme, ce sont des enfants de Dieu, c'est des chrétiens authentiques qui vivent dans la soumission, dans la vérité, dans l'humilité, dans l'obéissance. Quiconque reçoit au nom du Seigneur Jésus-Christ, il le reçoit pas que seulement lui, mais aussi les pères. Donc vraiment, c'est une vérité que le Seigneur veut que nous puissions comprendre, nous qui les suivions, nous qui l'aimons, parce qu'il nous aime, il nous prend dans ses bras, il protège parce qu'il sait, que nous sommes sans défense, il est notre défenseur. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Maman Petronelle.
Oui, papa, merci. Je passe au verset 38. Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chassait les mauvais esprits en ton nom, et nous avons voulu l'en empêcher, parce qu'il n'appartient pas à notre groupe. » Donc, là, comme tout à l'heure, on a parlé de l'enseignement que Jésus est en train d'appeler les 12 pour leur montrer l'humilité, leur montrer ce qui doit servir le Seigneur, il doit être quelqu'un qui veut être le premier, il doit être le dernier et le serviteur des autres. Et ici, nos disciples n'ont pas encore saisi la leçon, parce que en voyant quelqu'un qui chasse le mauvais esprit, le mauvais esprit c'est toujours quelque chose qui est très fort et on le chasse pas à n'importe quel nom, c'est au nom de Jésus. Et cet homme-là qu'ils ont rencontré est chassé au nom de Jésus. Et eux voulaient l'en empêcher parce qu'il n'appartenait pas à leur groupe. Donc, je comprends que nos disciples, à l'époque, il y avait quand même des choses qu'ils vivaient avec Jésus, mais n'avaient pas encore saisi la mission de Jésus. Ils n'avaient pas encore saisi la grandeur, la puissance de Jésus sur eux. Il peut donner le pouvoir à qui il veut, à n'importe quelle personne. Mais eux se considéraient seulement eux les douze. C'est comme s'ils étaient devenus un peu égoïstes. Je voulais... Voilà. Que l'Esprit Saint de Dieu nous aide, nous aussi aujourd'hui. Là, c'était l'époque. Ils voyaient Jésus, mais ils n'arrivaient pas à comprendre beaucoup de choses. Nous aussi aujourd'hui, que l'Esprit Saint de Dieu nous aide à comprendre la mission de Jésus, à comprendre les dons que Jésus donne à son Église, donne aux frères, donne aux pasteurs, donne à un tel, à un tel, et de ne pas jalouser cette personne-là. Voilà ce que je voulais dire de ce verset, la leçon que je tire. C'est un mauvais exemple à ne pas suivre.
Oui, c'est un mauvais exemple. Puisque le Seigneur n'a pas appuyé leur réaction. Il n'a pas appuyé. Et ensuite, nous savons que il y avait des personnes qui ne faisaient pas partie des douze, mais qui étaient les disciples du Seigneur. Amen. Je prends l'exemple de cet homme qui s'est chargé de l'enterrement du Seigneur. Oui. Les deux hommes-là, il y avait Joseph d'Arimathée et Nicodème. Oui. Joseph d'Arimathée, c'était un homme riche. Un homme riche. Il ne faisait pas partie des douze. Mais c'est lui qui est allé demander le corps du Seigneur au gouverneur pour l'enterrer. Et il y avait aussi un autre homme, c'est Nicodème, qui était venu la nuit. Qui était venu la nuit. Il a entendu vraiment le Seigneur lui dire des choses importantes. Il est resté attaché au Seigneur tout en étant dans le Sanhédrin, c'est-à-dire le conseil est là, le grand conseil qui décidait de grandes questions. Il était dans l'équipe. Il était dans l'équipe, mais ouvertement, il n'appartenait pas à l'équipe du Seigneur. Mais il était attaché à lui. Une fois, il avait intervenu lors du conseil, lorsque on voulait arrêter le Seigneur. Et il a dit non, notre loi ne nous autorisait pas d'arrêter quelqu'un sans l'avoir entendu. Voilà. Il était dans le conseil. Et il a donné un avis qu'on a suivi. Et les autres l'ont... lui ont dit, mais toi aussi tu es son disciple. Mais il a déjà dit. Donc, c'est pour dire que, oui, il y avait des gens qui vraiment suivaient le Seigneur de près, bien que physiquement, ils étaient loin des douze. Mais il y en a qui étaient aussi des disciples. Peut-être cet homme serait-il de ce groupe, nous ne savons pas. Mais ce qui est bien, c'est que le Seigneur n'a pas appuyé ses disciples. Et qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 39. Merci beaucoup, maman. Pétronel. Oui, papa pasteur.
Oui, au verset 39, Jésus lui dit, ne l'empêchez pas. En effet, si quelqu'un fait un miracle en mon nom, il ne peut pas dire du mal de moi tout de suite après. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc, c'est ce que Jésus leur dit. Et je crois que ça continue jusqu'au verset 41. Hein. Alors, on voit que Jésus, pour lui, il ne suit pas ce que les disciples ont dit. Au contraire, il les enseigne de ne pas empêcher une telle personne qui enseigne ou qui fait le miracle au nom de Jésus. C'est de connaître la seigneurie. Donc, au nom de Jésus, c'est qu'on reconnaît sa seigneurie. Ce n'est pas seulement parce qu'on dit Jésus, non. Mais faire le miracle au nom de Jésus veut dire reconnaître celui qui fait, il reconnaît la seigneurie de Jésus. Donc, on ne peut pas empêcher une telle personne de ne pas travailler. Il doit travailler. C'est ce qu'il dit dans ce verset.
Ok, n'empêchons pas. Le Seigneur lui-même connaît ses disciples. Même si nous ne le voyons pas au FIMES ou à nos églises, il sait ce que nous faisons et ce que nous sommes. Ok, le dernier verset est celui qui vous donnera à boire. Et celui qui, vous donnera un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, je vous le déclare, c'est la vérité, il y recevra sa récompense. Oui. Celui qui vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, il recevra sa récompense. Oui, ceci nous donne vraiment le courage de s'occuper, d'intervenir, de donner à ceux qui appartiennent à Christ, à ses serviteurs, à ses servantes, à d'autres chrétiens. Parce que, mon frère, tu viens d'où? Moi, je viens de cet état. Pour nous qui sommes ici, il y a les états. Et vous qui êtes là-bas, non, je viens de l'Angleterre. Vous restez en Belgique. Vous ne l'avez jamais connu. Et c'est un frère. Comme nous serons là-bas au mois de juillet, août. Oui. Et là, ce sont des frères et sœurs. Et nous sommes appelés à nous conduire comme il faut, puisque ce frère-là ou cette sœur-là est là-bas parce que il aime le Seigneur, comme moi-même j'aime le Seigneur. Par conséquent, on doit vraiment passer de bons moments ensemble parce que nous avons le même centre d'intérêt. Voilà, c'est déjà une préparation au camp. Merci beaucoup. Bon, je crois que nous pouvons nous arrêter là. Papa pasteur, tu dis vraiment un peu et nous terminons.
Deux mots. Ok. Mais on voit qu'on peut reconnaître ceux qui aiment le Seigneur, même par les actes qu'il pose. Parce que le Seigneur dit, je vous le dis, c'est la vérité. Si une personne vous donne à boire un verre d'eau, parce que vous appartenez au Christ, elle recevra sa récompense. Donc on voit ici vraiment que si nous sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau, les actes que nous posons au nom de Jésus, parce que nous aimons Jésus, ou bien quand nous les posons à d'autres qui appartiennent au Seigneur, on voit que chacun reçoit une récompense. C'est un encouragement pour nous à continuer à faire du bien. Mais aussi à encourager les autres à faire du bien. Je vous dis que si, quand nous donnons quelque chose à quelqu'un parce qu'il appartient au Christ, nous recevons au retour une récompense de la part du Seigneur. Quelle joie!
Oui.
Voilà peut-être plus de deux mots. Hein?
Ça va. Ok. Bien aimé, nous sommes à la fin. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On peut continuer. Pour vous qui êtes là-bas en Europe, continuez la lecture avant de dormir. Et nous autres ici, nous allons continuer à méditer ensemble, tellement que le voyage et le passage est riche. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ensemble? Maintenant, nous avons appris que le Seigneur tenait au secret ce qu'il faisait de foi. Surtout qu'il s'agit de la transfiguration, il a déjà dit à ses disciples là-haut 3, et il répète ici, Jésus ne voulait pas qu'on sache où il était, parce que chaque chose a son temps pour lui. Le Seigneur répète le même enseignement sur ses souffrances, sa mort et sa résurrection. C'est pour la deuxième fois qu'il disait ça, parce que c'est le but même de son voyage, qu'il souffre, qu'on l'arrête, qu'on le mette au mort, à mort, et troisième jour, il sera ressuscité. Pour nous qui sommes chrétiens, nous devons insister aussi sur la mort du Seigneur, sur ses souffrances qui nous ont donné la vie éternelle. Si le Seigneur n'était pas mort, si son sang n'avait pas été coulé sur la croix, la vie éternelle, le salut, nous ne l'aurions pas. Donc, nous devons parler de cela aux autres. Et les souffrances du Seigneur sont aussi nos souffrances. Nous ne pouvons pas nous en passer de souffrances sur cette terre, en tant que chrétien. En tant que chrétien. La vie facile, puisque nous avons le Seigneur, n'est pas biblique. Il n'a pas dit ça. Chaque fois, il revenait en disant, vous aurez des tribulations. Voilà. Les tribulations. Et les tribulations sont diverses. Quelqu'un peut être en souffrance de maladie, en souffrance pas de travail, pas d'argent. C'est si. Donc, mais chaque fois, il faut toujours rester attaché au Seigneur. Rester attaché au Seigneur. Pour terminer, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas assez de temps pour tout rappeler. L'attitude des disciples de savoir qui est le plus grand n'est pas une bonne attitude. Bien-aimé, on sait que ceux qui sont avec nous savent qu'un tel a étudié, un tel a de l'argent, un tel a beaucoup d'enfants, un tel a... Ce n'est pas la peine que vous le disiez. Non, ce n'est pas la peine. Et surtout, pour ce qui est de service et du Seigneur, que les frères et sœurs te donne la tâche, mais ne la retirons pas de force. La retirons pas. C'est moi qui connais. Moi, je peux le faire. Non, ici, non, il n'y a que moi. Non, 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 non. Non, bien-aimé, c'est qu'on dise, voilà, notre sœur vient. Voilà. Je ne peux pas essayer. Ainsi de suite. Donc, l'humilité nous a été demandée et nous devons vraiment nous appuyer sur la parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés, nous pouvons nous arrêter là. Nous n'avons pas eu le temps de lire les commentaires. Ceux qui ont le pain du jour peuvent le lire. Nous pouvons donner la parole. Je vois toutes les sœurs en parler. Maman Charlotte.
Oui, pasteur.
Bonsoir. Pouvons-nous te demander la parole pour la prière? Ok.
Le Seigneur, notre Dieu, et disons merci encore une fois pour l'âge de ta parole. Et mon Dieu, mon roi, et de disposer nos cœurs tous les jours pour être attaché à ta parole, pour suivre ta parole. Mon Dieu, mon roi, pour ceux qui n'avons pas compris, avant que toi, là, tu vas le mettre dans nos cœurs. Bien, merci pour le modérateur, pour les bien-aimés qui ont été avec nous ce soir, et pour les bien-aimés aussi qui ne sont avec nous, toi-même, tu vois. Pose-nous tous les jours ta parole qui nous fortifie, nous encourage, l'âge nos détresses, nos inquiétudes. Seigneur, bénis chaque maison. Seigneur, les bien-aimés qui vont continuer partager encore ta parole. Seigneur, pourvois à nos besoins pour notre camp biblique. Toi, tu connais le cœur de chacun. Mon Dieu, mon roi, tu es béni, Seigneur, parce que j'ai confiance. C'est que ce que j'ai demandé et ce que je n'ai pas demandé, Seigneur, toi, tu le sais. Et tu es Dieu. Tu es arbitré au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Deux choses à partager. La première, c'est la référence biblique de demain, Marc chapitre 9, versets 42 à 51. Chapitre 9, versets 42 à 51. Deuxième chose concernant la prière de samedi, merci beaucoup à ceux qui étaient venus. Et même ceux qui n'ont pas eu l'occasion, nous espérons qu'ils continuent à prier pour le camp. La prochaine rencontre pour la prière est le 18 juillet. Juillet, samedi encore, nous serons là-bas pour la prière commune, unissant les frères et sœurs de l'Europe à ceux de l'Amérique du Nord. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus, son Fils. Amen.
Amen.
Merci. Beaucoup.
Merci.
Ma cousine, oui. Du Canada. Elle n'est pas là.
Oui, c'est papa qui était là.